L'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Quasiment tout le gouvernement est réuni depuis ce matin autour de Gabriel Attal.
Oui, un séminaire aux allures de Conseil des ministres et ce moment où les dépenses sociales se retrouvent dans le viseur de l'exécutif pour combler le déficit qui a dérapé l'an dernier. Alors c'est le cas en particulier de l'assurance chômage que le gouvernement voudrait à nouveau réformer, même si on le verra, le système est pour le coup excédentaire et donc vient combler les caisses de l'État. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que le débat sur les finances publiques agite la classe politique. On se rendra en Italie où le gouvernement s'apprête, lui, à supprimer une subvention massive de rénovation énergétique. Les JO de Paris 2024 seront-ils vraiment écologiques, ainsi que l'ont promis les organisateurs? On posera la question à notre invité aujourd'hui, Justine Biraud, copilote du rapport Décarbonons les stades. Enfin, on reviendra sur la vie du maître de l'acier, le plasticien américain Richard Serra, décédé hier à l'âge de 85 ans. Des résultats, telle avait été la promesse de Gabriel Attal pour son tout premier 20h de TF1 en tant que chef du gouvernement. Et sans doute que ce soir, à la télévision, le Premier ministre pourra varier cette fois-ci son épiseux avec de la rigueur. Et l'idée, une fois de plus, que cette figure de style basée sur le principe de la répétition aurait vertu pédagogique. Car après la confirmation hier des mauvais résultats, justement, du déficit public, le gouvernement va devoir désormais convaincre de la nécessité impérieuse de trouver des marges financières. Alors plusieurs pistes ont d'ores et déjà été avancées, parmi lesquelles les réformes contestées du revenu de solidarité active et de l'assurance chômage, ou comment, selon la terminologie officielle, défendre un modèle social qui incite davantage à l'activité, comprenez endurcir encore un peu plus les règles. Quitte donc à rechercher de l'austérité là où le système est excédentaire, puisqu'en l'occurrence, Marie Viennot, l'assurance chômage ne participe pas au déficit public de la France. Bien au contraire.
Les chiffres publiés hier par l'INSEE le confirment. Si le déficit a dérapé en 2023, ce n'est pas à cause de la sécurité sociale dont les comptes sont en excédent l'an passé. Même chose pour les comptes de l'assurance chômage, gérés par l'UNEDIC, qui affiche un solde positif d'€1,6 milliard en 2023. Pour les années à venir, l'UNEDIC estime que l'excédent va perdurer, au point que l'État a prévu de ponctionner 12 milliards d'euros dans ses comptes sur les 4 prochaines années. Donc non seulement l'assurance chômage ne participe pas à la dégradation des finances publiques, mais en plus, le gouvernement lui fait les poches. Dans la logique de l'exécutif, si on durcit les règles pour être indemnisé, le chômage va baisser, ce qui va faire rentrer des cotisations, donc augmenter les recettes pour tous les organismes de sécurité sociale, ce qui va en plus doper la croissance, car moins de chômage sur le plan macroéconomique, c'est plus de consommation. Croissance et plein emploi, c'est la solution pour redresser les comptes publics, assure l'exécutif. Mais réduire les droits des chômeurs, va-t-il les aider à retrouver un emploi? C'est la question de fond. Alors il existe beaucoup d'études à ce sujet, mais leurs conclusions sont ambivalentes, car il ne faut pas seulement tenir compte du nombre de chômeurs qui vont sortir des statistiques de l'assurance chômage quand on durcira les règles, il faut aussi prendre en considération le type d'emploi qui aura été pourvu, précaire, stable, adapté aux qualifications de la personne ou pas. La DARES, qui publie des études pour le compte du ministère du Travail, vient d'ailleurs de publier des statistiques sur les conséquences de la réforme de 2020 et elle en a conclu que l'effet sur l'emploi provenait uniquement de la reprise d'emploi peu durable.
L'épilogue d'un long feuilleton en même temps que le premier jour d'un grand défi, le distributeur Casino, dirigé pendant 20 ans par l'ex-banquier d'affaires et haut fonctionnaire Jean-Charles Naouri, figure du capitalisme à la française, va passer aujourd'hui entre les mains de ses repreneurs, emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Nouvelle étape à l'Assemblée de Corse vers une possible autonomie de l'île. C'est aujourd'hui que les élus insulaires doivent se prononcer sur l'accord trouvé avec le gouvernement.
Après une longue éclipse due au mandat tumultueux de l'ancien président extrême droite Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron est arrivé hier au Brésil, accueilli par son homologue Lula.
Oui, une visite d'état de 3 jours destinée à tourner la page de ces années noires au programme géopolitique, coopération économique et protection de l'environnement. En revanche, et pour ne pas trop empoisonner l'ambiance, les deux hommes devraient éviter de trop aborder l'épineux sujet du Mercosur, ce projet de traité controversé avec les pays d'Amérique latine et que l'Union européenne peine à adopter, notamment face au blocage de la France. S'agissant du CETA, ce traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Cette fois-ci, le projet de ratification ne sera pas transmis à l'Assemblée avant les élections européennes. Déclaration hier du ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors rappelons tout d'abord qu'il y a une semaine tout juste, grâce à une alliance gauche-droite de circonstances, le Sénat s'était lui opposé à la ratification de ce traité, une déconvenue pour le moins embarrassante pour l'exécutif sur la route des européennes. Et dans la foulée, les députés communistes avaient, eux, annoncé leur intention d'inscrire le texte dans leur temps parlementaire réservé, prévu le 30 mai prochain, c'est-à-dire avant les élections organisées 10 jours plus tard. Sauf que le gouvernement Stéphane semble lui vouloir temporiser avant de déposer le texte sur la table de l'Assemblée, quitte à négliger l'avis parlementaire.
Oui, le gouvernement a décidé de ne pas transmettre pour le moment le texte de ratification qui vient d'être rejeté, vous l'avez dit, par le Sénat à l'Assemblée nationale, ce qui aura pour effet d'empêcher les communistes de l'inscrire à l'ordre du jour de leur niche parlementaire le 30 mai prochain. 10 jours, effectivement, avant le scrutin européen. Il ne faut pas qu'il soit examiné avant les élections, justifie le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, dans une interview au Figaro, car la ratification de ce traité ne doit pas être, selon lui, instrumentalisée. Il s'agit là de la réponse du gouvernement au piège que s'apprêtait à leur tendre le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Les communistes sont opposés au CETA. Et comme leur niche parlementaire tombe opportunément à quelques jours des élections, ils y voyaient le moyen à la fois de fragiliser l'application de cet accord de libre-échange et de mettre en difficulté le gouvernement. Le fait qu'on soit en pleine campagne électorale est en effet de nature à fédérer toutes les forces politiques d'opposition contre le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée. Or, comme l'exécutif ne dispose que d'une majorité relative, il y avait de fortes chances ou de forts risques que, comme au Sénat, l'Assemblée nationale ne ratifie pas ce traité s'il était examiné le 30 mai prochain. Si c'était le cas, s'il n'était pas ratifié par l'Assemblée, ça n'empêcherait pas la poursuite de sa mise en œuvre. Car pour y mettre un coup d'arrêt, il faudrait que le gouvernement notifie ce rejet aux institutions européennes et il peut décider de ne pas le faire. Mais ce serait tout de même très handicapant car il ne pourrait pas retarder sine die cette notification, sauf à être accusé de ne pas respecter les décisions du Parlement et de la démocratie. Il a donc trouvé cette solution en espérant qu'après les élections, le contexte politique sera peut-être un peu moins défavorable.
Merci Stéphane Robert. C'est aujourd'hui que les 27 doivent examiner le projet de plafonnement de certaines importations agricoles venant d'Ukraine, jugées insuffisantes par une partie des États, dont la France, qui souhaite étendre ses restrictions au blé, une revendication notamment des organisations agricoles. Et puis hier, déjà, face à la colère paysanne qui balaye le vieux continent depuis 2 mois, les ministres européens de l'agriculture ont validé la révision de la PAC, la politique agricole commune, plus exactement le détricotage d'une partie des règles environnementales, sous la pression des tracteurs dans les rues de Bruxelles et au grand dame, bien sûr, des défenseurs du climat.
Écologie toujours et encore, depuis son dossier de candidature à l'organisation des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Paris a toujours fait la promesse d'une édition dont l'empreinte carbone serait moins importante que les éditions précédentes.
Oui, des constructions à l'électricité en passant par la restauration et les déplacements, le défi est évidemment immense et pour y parvenir, Paris 2024 a notamment fait le choix de privilégier des infrastructures existantes pour les épreuves et donc d'engager certains travaux dans des stades existants plutôt que d'en créer de nouveaux ex nihilo. Alors, des compétitions sportives plus écolo sont-elles possibles? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Justine Biro, copilote du rapport Décarbonons les stades au sein du think tank The Shift Project. Bonjour, madame.
Bonjour.
Il se trouve qu'hier, le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne présentait justement ses travaux pour réduire ses émissions avant les JO. Est-ce que cette idée donc de privilégier la rénovation plutôt que la construction est un choix plus raisonnable d'un point de vue écologique?
Alors nous, à Shift Project, on s'est intéressé à l'empreinte carbone des manifestations sportives dans les grands stades. Donc on a publié un rapport intermédiaire la semaine dernière. Et ce qu'il apparaît, c'est que le transport est forcément l'impact le plus important, entre 60 à 80% de l'empreinte carbone d'un stade. Et la partie des immobilisations, donc la construction du stade, qu'on a amorti sur 40 ans, c'est entre 4 et 5% de l'empreinte carbone. Donc si on devait imputer 100% de la construction d'un stade à un événement sportif, évidemment que cette part prendrait une part très très importante dans le bilan carbone. Donc favoriser des infrastructures existantes, évidemment que c'est une bonne solution et un choix raisonnable.
Alors les travaux engagés pour mettre donc toutes ces infrastructures au niveau des exigences fixées pour les JO révèlent malgré tout quelques surprises et à cette occasion on a notamment découvert qu'un certain nombre de grands stades utilisaient encore régulièrement des groupes électrogènes généralement utilisés pour des installations éphémères afin de produire leur électricité. On sait combien ils sont émetteurs de CO2, jusqu'à quel point l'utilisation de ces groupes électrogènes est encore répandue dans les stades en France.
Alors la question énergétique, si on reprend notre bilan carbone global, c'est entre 2 à 5% du bilan carbone global d'un stade. Et dans ces 2 à 5%, 60% de la part énergétique est due à l'électricité. Donc les pelouses qu'on a chauffées, le chauffage dans le stade. Et il y a une part qui est due aussi aux générateurs. Mais là, il y a une grande disparité en France, parce qu'il y a des stades qui utilisent encore des générateurs pour leur activité quotidienne et d'autres qui sont principalement raccordés au réseau électrique général. Donc sur les stades de foot, par exemple, c'est 13 stades sur 40 environ qui utilisent encore des générateurs. Donc devoir accélérer le branchement électrique de ces stades pour se passer des générateurs et du fioul qui est particulièrement émetteur en CO2, c'est indispensable. Est-ce que c'est le levier le plus efficace pour respecter nos engagements des accords de Paris ? On voit bien que le transport, qui a une part vraiment prédominante, est un levier qu'il va falloir prendre assez rapidement en main aussi.
Ça veut dire que la transition écologique dans les stades reste encore à faire en France ?
En tout cas, aujourd'hui, les pourcentages de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 6 à 7% par an. Et si on veut aller sur cette trajectoire, il va falloir se saisir des enjeux qui pèsent lourd dans le bilan carbone pour arriver à la neutralité en 2050.
Vous insistiez notamment tout à l'heure sur le transport des supporters comme étant de loin la source d'émissions la plus importante à l'occasion d'une rencontre sportive. Comment peut-on adapter les stades pour diminuer ce secteur émetteur ?
Alors, pour l'instant, on a fait un rapport intermédiaire. Donc, on va proposer des leviers et des propositions normalement le 3 juillet. Mais déjà, on peut s'inspirer des rapports qui ont été faits au Shift Project sur la mobilité quotidienne. Et donc, on voit que pour un stade, il va falloir inciter les mobilités douces, donc le vélo, raccorder les stades au transport en commun, inciter le covoiturage pour que les gens viennent au stade ensemble et qu'ils soient plus tout seuls dans leur voiture. Et si ces mesures sont pas suffisantes, si le fait de proposer d'autres alternatives que la voiture individuelle, si ça ne nous permet pas de tenir nos engagements, là alors il faudra réfléchir à revoir peut-être la programmation des stades et le nombre de matchs.
Après vous être penché sur la décarbonation donc de nombreux pans de notre société, c'est la première fois je crois que le Shift Project s'intéresse au sport. Pourquoi ?
C'est vrai que le Shift Project s'est intéressé à beaucoup de domaines et beaucoup de secteurs d'activité. Celui qui s'en rapproche le plus était la culture par exemple. Et on a pensé essentiel de s'intéresser au sport, car le sport, c'est à la fois un secteur d'économie et un secteur d'activité en France très important, mais aussi a une capacité de résonance. Et on pense que par le sport, on est capable de véhiculer un certain nombre d'idées pour que la transition écologique s'accélère en France.
Merci Justine Miro, copilote, je le rappelle, du rapport Décarbonons les stades au sein du Think Tank The Shift Project, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
Il n'y a pas qu'en France, Thomas, que le débat sur les finances publiques revient à la une de l'actualité.
Oui, en Italie aussi, les comptes se dégradent. Avec 7,2% du PIB, le déficit budgétaire l'an dernier aura été bien plus élevé, là encore, que l'objectif du gouvernement. C'est ainsi que les autorités vont devoir à présent s'attaquer à un sujet qu'elles avaient assez largement laissé de côté. Et le premier geste pourrait être le quasi-enterrement d'une mesure d'incitation à la rénovation énergétique imaginée par un précédent gouvernement, le super bonus. Explication depuis Rome de notre correspondant Bruno Duvic.
Le super bonus était une mesure imaginée par le parti de gauche des 5 étoiles en 2020. Une subvention massive des travaux de rénovation énergétique pris en charge à 110%. Le gouvernement Meloni y avait mis un premier coup d'arrêt l'an dernier. Il en réduit un peu plus la portée en limitant les moyens d'obtenir le remboursement. Ce super bonus, qui a contribué à soutenir le secteur de la construction, a déjà coûté plus de 110 milliards d'euros aux finances publiques. De quoi avoir un sérieux mal de ventre, lâche le ministre de l'économie. Mais après avoir accusé l'opposition d'être dépensière entre super bonus et revenus de citoyenneté, quasi enterré lui aussi, la coalition droite-extrême-droite doit maintenant montrer qu'à l'inverse, elle ne laisse pas filer les comptes. Le budget 2024 était plutôt dépensier. Or, si le nouveau pacte de stabilité européen s'annonce plus souple que le précédent, les années Covid sont terminées. Dette et déficit, les chiffres italiens sont plus de deux fois supérieurs aux limites autorisées. À la fin de l'année dernière, les agences de notation financière n'ont pas touché à la note de Rome, mais le budget 2025 sera regardé de près.
La nuit dernière, le sud de la bande de Gaza a été de nouveau le théâtre d'intenses frappes israéliennes à Khan Younes. Les combats se sont même intensifiés. Enfin, dans le nord de l'enclave, où les bombardements ont cessé, les Gazaouis meurent littéralement de faim depuis que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a été formellement interdite par l'État hébreu de toute livraison d'aide alimentaire. À Baltimore, les secours ont suspendu leurs recherches hier soir autour du pont autoroutier dont une partie de la structure en acier s'est effondrée après avoir été percutée par un cargo. Les 6 personnes disparues des ouvriers qui travaillaient sur l'ouvrage au moment de l'accident sont désormais présumées mortes. Enfin, toujours aux États-Unis, près de 2 ans après avoir renversé le droit constitutionnel fédéral à l'IVG, la très conservatrice Cour suprême ne semble pas disposée cette fois-ci à valider un nouveau recul du droit à l'avortement. Hier, les 9 juges ont laissé entendre qu'ils ne remettraient pas en question l'élargissement de l'accès à la pilule abortive, dont l'utilisation a drastiquement augmenté justement du fait de la fin de l'accès garanti à l'interruption volontaire de grossesse.
La Thaïlande a franchi une étape cruciale vers la légalisation du mariage homosexuel.
Oui, à une très large majorité, les députés ont donné ce matin leur feu vert à ce texte qui devrait marquer une avancée importante et même inédite dans toute l'Asie du Sud-Est. Il doit en revanche encore passer devant le Sénat avant sa promulgation définitive par le roi. Une procédure, Nathanaël Charbonnier, qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
À l'annonce du résultat du vote, des applaudissements ont retenti dans l'hémicycle où certains élus ont brandi le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+. Il faut préciser qu'en Thaïlande, cette communauté est très visible dans ce pays réputé pour ses valeurs de tolérance, mais où les lois en vigueur restent très conservatrices et continuent d'alimenter les discriminations vis-à-vis des couples homosexuels ou des personnes transgenres. Il aura fallu donc de nombreuses années pour faire avancer toute la société sur le sujet. Ces 2 dernières années, des milliers de personnes ont d'ailleurs participé à la marche des fiertés de Bangkok. Il a fallu aussi convaincre les partis politiques. C'est aujourd'hui chose faite puisqu'ils adhèrent majoritairement à l'idée du mariage pour tous. Sur le fond, le projet de loi prévoit de modifier les références homme, femme, mari, épouse par des termes non genrés. À cela s'ajoutent des droits en matière d'adoption et d'héritage. Enfin, le royaume pourrait devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître l'union entre 2 personnes du même sexe et le 3e en Asie après Taïwan et le Népal.
Au Venezuela, plus que jamais, la machine d'État est en marche pour offrir le 28 juillet prochain un 3e mandat à Nicolas Maduro. Hier, le Conseil national électoral aux ordres du pouvoir a certes bien voulu enregistrer une candidature de la coalition d'opposition pour l'élection présidentielle, mais pas celle choisie pour rallier derrière elle des forces trop souvent divisées.
Il était connu pour ses œuvres en acier rouillé, à la fois monumentales et minimalistes, qu'il avait exposées dans le monde entier.
Figure majeure de l'art contemporain, l'américain Richard Serra est décédé hier à l'âge de 85 ans. Ses œuvres gigantesques ont marqué les esprits, des réalisations massives, anguleuses, de plusieurs dizaines de tonnes, constituées de lames de métal qui modifiaient la perception de l'espace tout en entrant en tension avec leur environnement. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour à tous.
Il y a 2 choses qui caractérisent donc l'œuvre de Richard Serra. Tout d'abord, des matériaux inhabituels comme l'acier, puis des dimensions spectaculaires.
Oui, l'œuvre qui réunit le mieux les deux, c'est sûrement l'une de ses plus célèbres, une série de spirales en acier, haute de 4 mètres et longue selon les pièces de 8 à 15 mètres. Ce sont donc, vous l'avez dit, des sculptures monumentales et elles sont construites en acier auto-patiné. C'est un matériau qui est surtout utilisé pour construire des ponts et qui évolue avec le temps. Donc, quand l'exposition a été mise en place en 94, les spirales étaient grises, elles se sont oxydées avec le temps pour devenir orange puis marron foncé au bout d'une dizaine d'années, d'où le titre « Matière du temps ». Ce choix de matériaux par Richard Serra n'est évidemment pas anodin. Son père était soudeur, ouvrier des chantiers navals et lui-même travaillait dans une aciérie comme job d'été quand il était adolescent. Au cours de sa carrière, il a bien sûr essayé d'autres supports, le caoutchouc, la fibre de verre, le latex et le néon. Mais à partir des années 70, il se concentre sur l'acier, en fait vraiment son matériau signature. Pour l'anecdote, l'une de ses œuvres était tellement massive qu'elle a dû être démontée. Une gigantesque plaque de métal installée en travers de la Federal Plaza de New York en 1981. Les habitants excédés ont fini par avoir gain de cause après 8 ans de bataille judiciaire. N'empêche que l'œuvre, par sa démesure, a marqué les esprits. En 2008, un monumental lui est consacré au Grand Palais de Paris. Une rétrospective au MoMA de New York également. Et sa matière du temps est visible de manière permanente au Guggenheim de Bilbao.
Merci Mathilde Cariou. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par un front pluvieux qui balayera la Bretagne et la façade atlantique partout ailleurs. Le ciel sera le plus souvent perturbé à l'exception des régions près de la Méditerranée où le soleil refera son apparition. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Yann Coudrier et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.